Concon, concon,
clin d'œil,
concon, concon, concon,
avec Marie-France.
Concon, 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 concon.
C'est une belle histoire de Noël, extrait d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Christine et qui est de Marie-Louise Kachnitz. Ce qu'il y a de difficile dans les rapports avec Don Crescenzo, c'est qu'il est sourd comme un pot. Il n'entend pas la moindre chose. Et il est trop fier pour lire sur les lèvres des gens. Malgré cela, on ne peut pas simplement entamer une conversation avec lui en écrivant quelque chose sur un bout de papier. On doit faire comme s'il appartenait encore à un monde, à notre monde de bruit et de bavardage. Bon, ce que j'ai demandé à Don Crescenzo, comment ça se passait autrefois à Noël, il était assis sur une petite chaise en rotin à l'entrée de son hôtel. Il était 6 heures et le flot des foules de midi s'était taré. Tout était parfaitement tranquille, et je me suis assise sur l'autre chaise en rotin, juste au-dessous du baromètre avec l'image publicitaire de la compagnie de navigation, un bateau blanc sur la mer bleue. J'ai répété ma question. Don Crescenzo a mis ses mains contre ses oreilles et il a secoué la tête avec regret. Puis, il a tiré de sa poche un petit bloc et un crayon. J'ai écrit le mot Natale et je l'ai regardé plein d'espoir. J'en viens tout de suite à mon histoire de Noël. En réalité, c'est l'histoire de Don Crescenzo. Mais il faut d'abord que j'ajoute quelque chose sur ce Don Crescenzo. Ce que mes lecteurs doivent savoir, c'est à quel point il a été pauvre autrefois et combien il est riche aujourd'hui. Il emploie plus de 100 personnes. Il possède de grands vignobles, des vergers de citronniers et 7 maisons. Il faut aussi que mes lecteurs se représentent son visage qui donne l'impression de se radoucir chaque année de surdité comme si les visages n'étaient formés et déterminés que par l'échange de paroles et de répliques. Il faut qu'il l'ait devant les yeux, en train d'aller et venir au milieu des clients de son hôtel, attentif, triste et terriblement seul. Et puis, ils doivent aussi savoir qu'il parle volontiers de sa propre vie et que quand il raconte, il ne crie pas, mais il parle à voix basse. Je l'ai souvent écouté et bien sûr, je connaissais déjà l'histoire de Noël. Je savais qu'elle commençait la nuit où la montagne est arrivée. Car c'est ce qu'ils avaient crié, tous ensemble. « La montagne arrive !» Ils avaient alors arraché l'enfant de son lit et suivi le petit chemin dans les rochers. À cette époque, il avait 7 ans. Et lorsqu'il en parlait, Don Crescenzo portait les mains à ses oreilles pour faire comprendre que c'est sûrement à cette nuit-là qu'il fallait imputer son mal actuel. J'avais 7 ans et j'avais la fièvre, dit Don Crescenzo en mettant cette fois encore les mains contre ses oreilles. Nous étions tous en chemise de nuit. C'était ce qui nous était resté après que la montagne eut entraîné notre maison dans la mer. Notre chemise sur le dos et rien d'autre. Des parents nous ont recueillis et d'autres parents nous ont donné plus tard le terrain, celui-là même où aujourd'hui se dresse l'albergo. Mes parents y ont construit une maison avant même que l'hiver arrive. Mon père a fait la maçonnerie et ma mère lui portait des briques dans des sacs qu'elle traînait péniblement jusqu'au bas de la pente. Elle était petite, elle manquait de force et lorsqu'elle croyait que personne n'était à proximité, elle s'asseyait un moment dans l'escalier, soupirait et les larmes lui coulaient sur le visage. Vers la fin de l'année, la maison était prête. Nous dormions sur le sol, enveloppés dans des couvertures et nous avions très froid. Et puis Noël est arrivé, dis-je en montrant le mot Natal et écrit sur la feuille de dessus. « Oui, » dit Don Crescenzo, « puis Noël est arrivé. » Et ce jour-là, je me suis sentie triste, comme je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Mon père était médecin, mais c'était un de ceux qui ne font pas de facture. Il allait soigner les gens, et lorsqu'il lui demandait ce qu'il lui devait, il répondait qu'il devait d'abord acheter les médicaments, puis la viande pour la soupe, et qu'ensuite il leur dirait combien. Mais il ne le disait jamais. Il connaissait très bien les gens d'ici et savait qu'ils n'avaient pas d'argent. Il n'arrivait tout simplement pas à les presser, même pas à l'époque où nous avions tout perdu et où les dernières économies avaient été épuisées dans la construction de la maison. Il s'y est essayé une fois, peu avant Noël, le jour où nous faisions brûler nos derniers morceaux de bois dans la cuisinière. Ce soir-là, ma mère a rapporté un tas de petites feuilles blanches à la maison et elle les a posées devant mon père. Puis elle lui a cité une liste de noms. Mon père écrivait les noms sur les feuillets et ajoutait chaque fois quelques chiffres. Mais lorsqu'il a eu fini, il s'est levé et a jeté les papiers dans le feu de la cuisinière, qui était justement en train de s'éteindre. Le feu a lancé de très belles flammes, ce qui m'a ravi, mais ma mère a eu un haut-le-corps, et elle a lancé à mon père un regard triste et plein de colère. C'est ainsi qu'au soir du 24 décembre, nous n'avions plus de bois, pas de quoi faire le repas, et pas de vêtements assez bien pour aller à l'église. Je ne crois pas que mes parents se soient fait beaucoup de soucis à ce sujet. Les adultes à qui arrive une telle chose sont certainement persuadés que ça finira bien un jour par s'arranger et qu'ils pourront alors boire, manger et louer le Seigneur, comme ils l'ont si souvent fait dans le passé. Mais pour un enfant, c'est une toute autre chose. L'enfant, lui, il reste là et il attend le miracle. Et si le miracle ne vient pas, tout est fini. Sur ces paroles, donc Crescenzo se pencha en avant et regarda dehors sur la route comme s'il y avait là quelque chose qui avait capté son attention. Mais en réalité, il cherchait seulement à cacher ses larmes. Il essayait de laisser voir à quel point le poison de la déception imprégnait encore aujourd'hui toutes les cellules de son corps. Notre fête de Noël, poursuivit-il après un moment, est certainement tout autre que chez vous, dans votre pays. C'est une fête très bruyante et très gaie. On porte l'enfant Jésus en procession, dans une chasse vitrée, et la fanfare joue. Pendant des heures et des heures, on tire des coups de canon, et l'écho de ces coups est renvoyé par les rochers de telle façon qu'on croirait entendre une grande bataille. Les fusées grimpent dans le ciel, se déploient en gigantesques palmiers et retombent dans la vallée en pluie d'étoiles. Les enfants hurlent, font du vacarme, et la mer mugit si fort avec ses sombres vagues d'hiver qu'on dirait qu'elle sanglote et qu'elle chante de joie. Telle est notre fête de Noël et nous passons toute la journée à la préparer. Les garçons mettent au point leurs pièces d'artillerie pendant que les filles tressent des couronnes et nettoient les poissons argentés qu'elles vont suspendre autour de la Madone. Dans toutes les maisons, on fait des rôtis et des gâteaux et on tourne la mélasse. Chez nous, ça s'était aussi passé comme ça, aussi loin que je peux me rappeler. Mais la veille de la Noël qui a suivi l'éboulement, il régnait dans notre maison un silence terrible. Il n'y avait pas de feu allumé, et c'est pour cela que je suis restée dehors aussi longtemps que j'ai pu. C'était quand même un petit peu plus chaud que dedans. Je m'étais assise sur les marches et je regardais en haut vers la route où les gens et où les voitures surgissaient avec leurs faibles petites lampes à huile, puis disparaissaient à nouveau. Il y avait une foule de gens qui circulaient, des paysans qui allaient à l'église avec leur famille et d'autres qui devaient encore acheter quelque chose. Des œufs, des poulets vivants, du vin. Assis là, je pouvais entendre le caquetage des poules et le joyeux bavardage des enfants qui se racontaient tout ce qu'ils allaient vivre le soir. Je suivais des yeux chaque voiture jusqu'à ce qu'elle eût disparu dans le trou noir du tunnel, puis je retournais la tête de l'autre côté et cherchais un nouveau véhicule. Lorsque la route a été plus calme, je me suis dit que la fête avait dû commencer et que j'allais maintenant entendre un peu le crépitement des fusées et les cris d'enthousiasme et de bonheur. Mais je n'ai rien entendu d'autre que les bruits de la mer qui s'écrasait contre les rochers, et la voix de ma mère qui priait et m'appelait pour que je me joigne à la litanie. J'ai fini par le faire, mais d'une façon toute mécanique, et le cœur buté. J'avais très faim, et je voulais mon repas, de la viande, des sucreries et du vin. Mais auparavant, je voulais ma fête, ma belle fête. Et puis, tout d'un coup, tout s'est métamorphosé d'une façon incompréhensible. Sur la route, les pas ne dépassaient plus notre maison et les véhicules s'arrêtaient. À la lumière des lampes, nous avons vu un sac rebondi qu'on jetait dans notre jardin et des paniers remplis jusqu'en haut qu'on déposait au bord de la route. Un chargement de bois et de brindilles a glissé jusqu'en bas des marches. Puis, lorsque, avec précaution, j'ai gravi l'escalier à tâtons, j'ai trouvé sur le muret le plus bas, posé sur des plats et des compotiers, des œufs, des poulets et du poisson. Il a fallu un bon moment avant que les bruits mystérieux prennent fin et que nous puissions mesurer à quel point nous étions soudain devenus riches. Ma mère est alors allée dans la cuisine pour faire du feu et je suis restée dehors, aspirant avec ferveur le parfum qui se dégageait du mélange d'huile chaude, d'oignons, de poulet haché et de romarin. À ce moment-là, je ne savais pas ce dont mes parents avaient déjà pu se douter, à savoir que les patients de mon père, ces vieux débiteurs, s'étaient entendus pour lui faire cette joie. Pour moi, tout était tombé du ciel. Les œufs, la viande, la lumière des bougies, le feu dans la cuisinière, ainsi que la belle blouse qu'en fouillant j'avais tirée d'un paquet de vêtements et que j'ai passée aussi vite que j'ai pu. « Cours !» m'a dit ma mère, et j'ai descendu la route en courant. J'ai pris le long tunnel tout noir, dont l'autre bout brillait déjà d'étincelantes lumières multicolores. En arrivant en ville, j'apercevais déjà de loin le baldaquin rouge et or, avec dessous l'évêque qu'on portait pour lui faire gravir l'escalier en pente raide. J'ai entendu les tambours et les grosses caisses, les cris de « Eviva !» et j'ai hurlé avec les autres de toutes mes forces. Puis les grosses cloches dans leur clocher à jour se sont mises à se balancer et à sonner. Don Crescenzo se tut, il sourit tout seul, heureux. Il devait sans doute entendre à nouveau, avec une oreille intérieure, tous ces bruits intenses et effrénés qui, pour lui, avaient été réduits au silence, et qui, justement pour lui, dans sa solitude, étaient encore beaucoup plus chargés de sens que pour tout autre, car ils signifiaient l'amour humain, l'amour divin, et la vie qui renaît de l'obscurité de la nuit. Je l'ai regardé, et j'ai pris le petit bloc dans ma main. « Vous devriez écrire, Don Crescenzo. Vos souvenirs. » « C'est vrai, a dit Don Crescenzo, je devrais. » Pendant un moment, il s'est redressé et on pouvait voir à son air qu'il ne prisait pas moins à l'histoire de sa vie que ce qui se trouve dans l'Ancien Testament ou dans l'Odyssée. Mais ensuite, il a secoué la tête. « Trop de choses à faire, a-t-il dit. » Et soudain, j'ai su ce qu'il avait eu en tête avec toutes ces transformations de bâtiments et ses constructions, avec le bar, les garages et l'ascenseur qui descendait jusqu'à la baignade. Il voulait protéger ses enfants de la faim, des tristes veillées de Noël et du souvenir d'une mère qui traîne péniblement des sacs pleins de pierres, s'assoit et se met à pleurer.